VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, des tirs à l'arme lourde ont été entendus à Boaké, à proximité du plus grand camp militaire de la deuxième ville du pays. D'après l'AFP, au moins deux commissariats de police ont été attaqués tôt dans la matinée. Jean-Roger Bion a joint sur place Rufine Koulibaly, une habitante de Boaké, qui confirme l'agitation chez les militaires.
Bon, ça a commencé aux environs de 1h du matin. Ils sont passés à la préfecture de police et puis dans des commissariats. Donc actuellement, ils sont en train de tirer, ils sont en ville. Bon, c'est pas au juste, c'est quelles revendications ils sont en train de faire. Donc tout le monde est rentré, tout le monde a fermé ses magasins. Tout est fermé au commerce, les entreprises, les banques, tout. Tout est fermé, les écoles aussi.
Alors qui tire justement dans les rues?
Bon, c'est les corps habillés là, c'est les militaires.
Ils viennent de quel camp de Boaké?
Bon, à Boaké, il y a plusieurs camps. Mais on ne sait pas juste dans quel camp ils viennent. Puis il y a le 3e bataillon, il y a le camp commando. On avait dit que c'était les choses, les démobilisés. Après, on nous dit que non, il y a des militaires dedans. Donc tout le monde est chez lui, quoi. Donc on ne sait pas juste c'est quelles revendications ils sont en train de faire. Parce que, bon, Boaké a vécu la crise. Donc c'est comme ça, ça va commencer au début. On pensait que c'était une petite histoire. Puis bon, c'est devenu une grande histoire. Donc tout le monde est sûr qu'ils vivent. Chacun chez lui pour voir comment ça va se terminer.
Rufine Koulibaly, une habitante de Boaké. Les militaires ont pris position à divers carrefours stratégiques de la ville et circulent dans les véhicules de la police. Un des mutins a confié à l'AFP sous couvert d'anonymat qu'il s'agit, je cite, d'une mutinerie des ex-combattants intégrés dans l'armée qui réclament des primes de 5 millions de francs CFA, soit à peu près 10 000 dollars, plus une maison chacun. Au Nigeria, une nouvelle lycéenne de Chibok, enlevée il y a presque 3 ans par le groupe islamiste Boko Haram, a été retrouvée par l'armée. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Rakia Aboubkar avait été enlevée le 14 avril 2014 avec 275 autres lycéennes de Chibok. Elle a été retrouvée près de la forêt de Sambisa avec son bébé de 6 mois, a annoncé dans un communiqué Sani Ousmane, porte-parole de l'armée. La jeune femme est actuellement examinée par des médecins militaires et devrait ensuite être confiée aux autorités de l'État de Borno. Le groupe Bring Back Our Girl ou Ramenez-nous nos filles n'a pas confirmé l'identité de la jeune fille pour l'instant. L'armée nigériane a également affirmé que 1400 civils accusés d'être des membres du groupe djihadiste ont été arrêtés entre le 28 décembre et le 4 janvier dernier. Début novembre, une jeune fille avait également été retrouvée près de la frontière du Cameroun et à la mi-octobre, le gouvernement nigérian avait réussi à négocier la libération de 21 d'entre elles. 195 lycéennes sont toujours disparues.
Au Mali, des combattants de l'ex-rébellion à dominante Touareg sont depuis hier à Gao, principale ville du nord, pour effectuer des patrouilles mixtes avec l'armée malienne et les groupes pro-Bamako. La CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, avait déploré le 30 décembre dans un communiqué qu'un groupe de manifestants hostiles à la CMA bloquait depuis plusieurs jours l'entrée d'une de ses compagnies composées de 200 hommes à Gao, tenue par le gouvernement malien. Et puis au Burundi, la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, exhorte la communauté internationale à changer de ton et de dimension vis-à-vis de la situation dans le pays. C'est à la suite de la radiation mercredi de la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, la plus ancienne du pays, par le gouvernement burundais. Florent Gel est le responsable du bureau Afrique de la FIDH.
Toutes les actions qui ont été prises par la communauté internationale n'ont pas été en mesure de changer la donne. C'est pour ça que maintenant, il faut peut-être aussi changer de ton et changer de dimension d'action et commencer à mettre une pression suffisante sur le gouvernement burundais pour pousser celui-ci à aller négocier. Sinon, on ne pourra intervenir que quand il sera trop tard.
Pour vous, aujourd'hui, ce n'est pas encore trop tard, mais quand est-ce qu'il sera trop tard?
Il est déjà un peu tard. On aurait pu éviter beaucoup de morts, beaucoup de souffrances, beaucoup de viols, beaucoup de tortures. Et chaque jour qui passe est un jour de trop. Difficile de dire le 20 janvier, il sera trop tard, évidemment. Mais attention à la catastrophe.
Florent Gel du Bureau Afrique de la FIDH au micro d'Éric Manira-Kiza.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
RDC, le Front pour le respect de la Constitution de le parti phare et le MLC de Jean-Pierre Bemba, tient à diriger le Conseil de suivi de la transition. Le Front conditionne sa signature de l'accord politique du 31 décembre à l'obtention de la gestion de cet organe que le compromis politique accorde à l'opposant historique Étienne Tshisekedi, dont la famille politique dirigera le gouvernement jusqu'à l'élection du successeur du président Joseph Kabila. Eve Bazaïba est la chef de file du Front pour le respect de la Constitution. On l'écoute.
Le rassemblement est venu nous visiter. Nous avons reçu non seulement la CENCO, l'ambassadeur de l'Union européenne et le rassemblement. Il y avait deux délégués du rassemblement, M. Martin Fayou, le député, et aussi M. Félix Tshisekedi, avec qui nous avons échangé. Nous avons fait voir clairement qu'il n'était pas question pour le rassemblement de diriger le gouvernement et de diriger l'organe du contrôle de mise en œuvre. Et je crois qu'ils nous ont compris et ils sont allés. Nous allons poursuivre les discussions. Ils ont un choix à faire, les points de soins, le gouvernement, soit les comités de suivi. Mais comme ils avaient déjà opté pour le gouvernement, ils ne peuvent pas être jugés partis. Est-ce que vous trouvez normal que le fils Tshisekedi est premier ministre et son père est chargé des contrôles du gouvernement, des contrôles de la CENI, des contrôles de mise en œuvre? Ça se passe où?
Madame Eve Bazaïba est secrétaire générale du MLC et chef de file du Front pour le respect de la Constitution. En RCA, un casque bleu bangladais a été tué par des hommes armés dans le nord-ouest du pays mardi. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui à Bangui la MINUSCA, la force de l'ONU sur place. Et toujours concernant la RCA, c'est la consternation au lendemain de l'annonce de la justice française concernant l'enquête sur des cas de viol présumés sur mineurs par des soldats de Sangaris. La justice française a déclaré cette semaine n'avoir trouvé aucune preuve étayant ces accusations. Notre correspondant Bangui Freeman Sipila fait le point.
L'annonce de la justice française a suscité de nombreuses réactions dans la capitale centrafricaine. Pour l'homme de la rue, la France n'a pas joué franc jeu dans cette affaire.
Dire qu'il n'y a pas de preuves, je crois que ça ne rendrait pas service à la communauté centrafricaine, aux familles centrafricaines qui ont vu leurs soeurs violées. Il faudrait que la France, qui est un état de droit, un état qui respecte la légalité, puisse approfondir les enquêtes encore davantage, rassembler les preuves, punir les auteurs.
Aujourd'hui, la justice française pense que tout ce qui a été mené comme enquête jusqu'à l'aboutissement, les informations ne sont pas avérées. Et je suis franchement désolé.
La justice française n'a pas très bien fait son travail. Elle cherche à couvrir seulement leur souveraineté, leur intérêt, leur personnalité.
Ça ne me surprend pas. Ça ne fait que me rappeler ce que les Français pensent de nous.
La société civile centrafricaine affirme ne pas partager ce point de vue sur l'absence d'éléments de preuve. L'avocat Barthélémy Mathias Moruba, président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme, propose que les victimes soient entendues de nouveau.
Nous ne partageons pas malheureusement le point de vue de cette justice. Pour nous, nous estimons qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons encore des victimes qui sont à Bangui et qui attendent que la justice soit rendue. Les moyens doivent être mis à disposition pour permettre à cette victime-là de s'exprimer. Et c'est ça que nous sommes en train de déplorer. Et il fallait aussi que l'État centrafricain puisse s'impliquer dans cette affaire. Parce qu'il s'agit de l'exploitation des enfants centrafricains par des militaires, des sangaristes qui sont des Français qui viennent ici dans une autre mission et qui outrepassent leur mission pour faire n'importe quoi sur les petits-enfants de notre pays. Nous ne pouvons pas accepter ça.
Pour Apollinaire Mbessa, député de Dédé Mokouba, dans la préfecture de la Mombéré-Kadéi, ce ne sont pas les preuves qui manquent.
C'est un grand étonnement pour moi d'écouter ces pareilles réactions. Parce que depuis que la force onusienne est chez nous ici, il y a un peu plus de 3 ans, force Sangaris, c'est surtout, nous avons toujours palpé de doigts les preuves. Même si on s'approche des services des droits de l'homme, toutes les associations, le groupe des femmes passées par là, ce sujet n'est pas à nier. C'est bien une réalité.
Les autorités centrafricaines se réservent encore de tout commentaire. Présenté comme un succès par le ministère français de la Défense, l'opération Sangaris a quitté la Centrafrique fin octobre 2016 en laissant derrière elle plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles, y compris sur des mineurs. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Et pour terminer, en Libye, après la défaite du groupe extrémiste État islamique dans son fief de Sirte, les principales factions rivales libyennes se livrent à une lutte d'influence sans merci, faisant planer la menace d'un conflit généralisé dans le pays. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.